les grands titres de ce mardi 30 janvier. Des feux de brousse font rage en Australie-Occidentale alors que des inondations menacent le territoire du Nord. À Paris, la Seine a atteint son pic dans la nuit de lundi. Malgré les dégâts, le pire a été évité. Et l'Union européenne s'est dit officiellement prête à négocier une transition post-Brexit jusqu'à 2020. Commençons ce journal en Australie-Occidentale où les pompiers travaillent d'arrache-pied à combattre des feux de brousse dans le sud-ouest de l'État. Le service d'incendie a lancé une alerte Watch and Act pour Augusta, Deepdin, Hamlin Bay, dans les régions d'Augusta et Margaret River. Une Advice Alert qui est moins dangereuse, moins importante que la Watch and Act, a été émise pour Carriedale, Coudadopt, Mulay Island, East Augusta et les régions environnantes. Pendant ce temps, les résidents de Daly River dans le territoire du Nord ont été évacués en raison de possibles inondations. Matthew Holamby des services d'urgence a dit que la communauté était en attente d'une possible évacuation depuis la semaine dernière. La décision d'évacuer a été prise après que le bureau de météorologie ait prévu que la rivière Daly pourrait déborder aujourd'hui. Le premier ministre australien Malcolm Turnbull a défendu l'ex-ministre de l'Immigration Scott Morrison. ABC a obtenu des documents datant de 2013 montrant que Morrison a donné son appui à son ministère pour demander à l'Agence d'intelligence australienne qu'il retarde les vérifications de sécurité des demandeurs d'asile. Le but aurait été de prendre trop de temps pour que les demandeurs d'asile ne puissent recevoir leur visa de protection permanente. Malcolm Turnbull a dit que Scott Morrison avait fait ce que le gouvernement désirait.
He stopped the boats. He did an outstanding job in securing our borders. And we make no apologies for sending the clearest message to the people smugglers and to their would-be customers. If you want to come to, think you can come to Australia on a people smuggler's boat, you're wrong.
Le premier ministre australien Malcolm Turnbull. Passons à l'international. À Paris, la Seine a atteint son pic la nuit dernière. La crue du fleuve a culminé à 5,84 mètres. Malgré les dégâts, le pire a été évité. On écoute Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, qui a voulu rassurer les Parisiens au micro de RFI.
Emmanuel Macron a souhaité que l'on vienne saluer ce travail des uns et des autres et puis dire également à ceux qui sont victimes que bien entendu on va essayer de faire en sorte d'accélérer les dispositifs et les procédures. Rien ne vient psychologiquement réparer ces dégâts-là. Mais après, matériellement, il y a des dispositifs existants et puis il y a des dispositifs exceptionnels qui pourront peut-être être mis en place. Je ferai, je pense, lors du Conseil des ministres et également ce soir en rencontrant le Président, un compte-rendu des attentes des uns et des autres parce qu'il y a des choses qui sont couvertes. Et puis il y a des choses qui ne sont pas couvertes. C'est important pour moi de me rendre compte qu'est-ce qui échappe aux dispositifs en place et qui font qu'il y a des gens qui sont pénalisés et qui ne sont pas dans les bonnes colonnes. C'est important d'entendre justement les attentes des uns et des autres.
Frédéric Citeau reviendra plus en détail sur cette situation, ces inondations à Paris un peu plus tard dans le programme. Toujours en France, le procès de Jawad Ben Daoud a repris hier. Il est surnommé le logeur de Daesh pour avoir logé deux terroristes des attaques du 13 novembre 2015. Franck Alexandre de RFI était sur place.
Avec son verbiage fleuri, Jawad Ben Daoud se défend comme un beau diable. « J'étais au courant de rien, dit-il. Le ciel m'est tombé sur la tête. Je préfère prendre 6 ans plutôt qu'une relaxe, mais qu'enfin la vérité soit dite. » Voilà sa ligne de défense, confesser qu'il est un délinquant sans aucun lien avec le terrorisme. À Abaoud, je lui ai dit « Je fais pas la prière. Vous imaginez ? Je sais que c'est des terroristes et je leur dis « Je fais pas la prière. » Il y a rien de logique dans cette histoire, lâche-t-il. J'aurais dû m'en douter. Deux mecs qui viennent de Belgique et qui veulent juste de l'eau et dormir, j'aurais dû m'en douter. Je ne les aurais pas hébergés, même pour 150 000 euros. Puis le logeur de Saint-Denis s'apitoie sur son sort. Ils disent à la télé que je fais le show. J'aimerais bien qu'ils me voient dans ma cellule quand je pleure pendant des heures au parloir. Même mon frère me dit que je deviens fou et que je parle fort. Enfin, Jawad Ben Daoud évoque son avenir, ses projets, comme monter une chaîne de restaurants. J'ai aussi commencé à écrire un livre sur ma vie, mais j'ai arrêté. Ça m'a saoulé. Une chose est sûre, la délinquance, c'est du passé. Personne ne voudra plus jamais s'associer avec moi. C'est mort. J'ai plus d'avenir dans l'illégal.
Plusieurs familles des victimes des attaques du 13 novembre, qui, on se rappelle, ont fait 130 morts et plus de 400 blessés, étaient au palais de justice. Parmi eux, Sandrine, qui a perdu son mari au Bataclan.
Je vais prendre la parole parce que depuis le 13 novembre, je n'ai jamais communiqué ni rien. Et là, j'ai vraiment besoin de m'exprimer, même d'une façon très courte, pour dire mon ressenti, déjà par rapport à ce qu'on a vu, et ce que j'aimerais qu'on garde en mémoire, ce que représentait le 13 novembre. Qu'on ne s'égare pas. Ben, le ressenti, j'ai l'impression que c'est un grand show et que ça me paraît impossible pour moi qui n'étais pas au courant. Vu même nous, en tant que victimes, on a essayé de s'isoler, on n'arrivait pas. Et je veux dire que pourtant, on n'avait vraiment pas, on était en plein dedans et on n'avait pas envie que ça soit relayé constamment. Mais c'était impossible, c'était en boucle partout. Les écrans, même dans les cafés, il n'y avait que ça. Et ça me paraît quand même invraisemblable que pendant 3 jours, il n'y ait aucune information. Oui, je pense qu'il y a du mensonge, oui. Pour du business, ils sont capables de faire n'importe quoi, mais c'est ça qui est dangereux. Et ça nous a coûté très cher et ça risque encore de nous coûter très cher. Pour moi, c'est surréaliste.
C'était Sandrine qui a perdu son mari lors de l'attentat du Bataclan. Elle était au micro de RFI. Aux États-Unis, la Maison-Blanche nie que le président Donald Trump a influencé la démission du numéro 2 du FBI, Andrew McCabe. Ce dernier aurait dû prendre sa retraite en mars, mais les médias rapportent qu'il partira dès maintenant. La secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a dit que Donald Trump n'était pas lié au départ de McCabe.
Look, the president stands by his previous comments, but in terms of the situation today, as I just said, we've seen the reports just as all of you have. We don't have any specific comments, and I would refer you to the FBI for any specifics on the things that are taking place today.
La secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders. L'Union européenne s'est dit officiellement prête à négocier une transition post-Brexit jusqu'à 2020. Londres va pouvoir continuer à participer au budget européen, mais devra renoncer à tout pouvoir de décision. Quentin Dickinson a plus de détails.
Les lignes directrices arrêtées ici par les 27 ministres des Affaires européennes sont particulièrement claires et dures à avaler pour les dirigeants britanniques. C'est qu'au cours de la période de transition de 21 mois, de mars 2019 à fin 2020, le Royaume-Uni continuerait à appliquer l'ensemble des directives et règlements de l'UE comme si de rien n'était, en tenant compte scrupuleusement de toute modification ou texte nouveau qui serait adopté pendant la transition. Comme tout État membre de l'UE, ce qui ne sera plus, il acquitterait ses contributions au budget commun et lui serait interdit de signer des accords douaniers ou commerciaux avec des pays tiers. Et ce serait à la Cour de justice européenne à Luxembourg de trancher tout éventuel litige. En revanche, le Premier ministre britannique ne serait plus convié au sommet régulier. Aucun ministre britannique ne siégerait plus au Conseil de l'UE, il n'y aurait plus de commissaire britannique ni de député britannique au Parlement européen. On comprend donc tout l'inconfort de cette situation où le Royaume-Uni continuerait à connaître les contraintes, mais aussi quelques avantages, d'un pays membre, mais sans avoir de près ni de loin la possibilité d'infléchir les politiques qui lui seraient imposées. On comprend aussi la dynamite politique que ces fourches caudines représenteraient pour le gouvernement et pour le Parlement britannique.
Quentin Dickinson pour RFI. Une enquête du quotidien français Le Monde affirme que la Chine a espionné l'Union africaine entre 2012 et 2017. Plusieurs sources à l'interne à l'Union africaine auraient affirmé au quotidien que les informaticiens de l'institution se sont rendus compte que le contenu des serveurs de l'UA était transféré vers des serveurs à Shanghai en Chine. Le siège de l'UA a été financé et construit par la Chine en 2012. Mais la Chine et l'Union africaine ont rejeté ces affirmations, disant que c'était absurde. L'ambassadeur chinois à l'UA, Quang Weilin, a dit que l'article cherchait à envenimer les relations entre la Chine et les pays africains.
The report published by the Le Monde is a sensational story. It is preposterous, absurd. Le Monde is regarded as a serious French newspaper, and I do not understand why they choose this time to publish the story.
C'est l'ambassadeur chinois à l'UA, Quang Weilin. Jetons maintenant un coup d'œil à la météo avant de passer au sport avec Jean-Noël Ducasse. À Perth, aujourd'hui, on a un maximum de 30 degrés. Adélaïde, 23. Melbourne, 20. Hobart, 19. Canberra, 32. Wollongong et Sydney, 28 degrés. Newcastle, 27. Brisbane, 30. Cairns, 32. Et à Darwin, 29 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 30 janvier. Des feux de brousse se font rage en Australie-Occidentale alors que des inondations menacent le territoire du Nord. À Paris, la Seine a atteint son pic dans la nuit de lundi. Malgré les dégâts, le pire est évité. Et l'Union européenne s'est dit officiellement prête à négocier une transition post-Brexit jusqu'à 2020.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench